Et notre invitée ce matin, Natalia Vielima, secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'interview d'Alpe 1. Vous serez en déplacement ce vendredi dans les Hautes-Alpes, plus précisément à la Reine-Montéglin, commune dont le collège et les écoles maternelles et primaires sont classés en REP, en réseau d'éducation prioritaire. D'ailleurs, ça peut nous donner aussi l'occasion de faire un tour d'horizon de ces REP dans les Alpes du Jus, puisqu'il y a la Ragne, mais il y a aussi l'école primaire du Pex, du Poète, de Valbuèche-Méouges et de Barré-sur-Méouges dans les Hautes-Alpes, côté Alpes d'Haute-Provence, les écoles la Lucquesse et les Plantiers, l'école la Ponceau, et le collège Jean Giono à Manosque. Madame la ministre, comment on établit que tel ou tel établissement doit être considéré comme réseau d'éducation prioritaire ?
Alors, il y a des critères qui sont généralement... Enfin, il y a plusieurs critères. Les principaux sont d'ordre socio-économique. Il y a aussi des critères géographiques, mais généralement, les deux premiers que je vous ai cités, le niveau des élèves également, permettent de déterminer ce classement.
Vous parliez justement de critères géographiques. La ruralité entre en compte dans le fait que l'éducation prioritaire peut y être déclinée ?
Oui, et c'est même très important. Et d'ailleurs, c'est souvent oublié. Je m'explique. Généralement, quand on parle de réseau d'éducation prioritaire, on a plutôt tendance à imaginer le quartier prioritaire de la ville ou le quartier de reconquête républicaine. Mais c'est aussi la ruralité. C'est aussi les zones de montagne, c'est aussi les territoires ultramarins. Donc le critère géographique est tout aussi important, puisque il induit un certain nombre de problématiques, notamment la question de la mobilité.
Le référentiel de l'éducation prioritaire a estimé plusieurs missions. Il y a d'abord garantir l'acquisition du lire, écrire, parler, conforter une école bienveillante et exigeante, mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les partenaires pour la réussite scolaire, favoriser le travail collectif de l'équipe éducative ou encore accueillir, accompagner et soutenir les personnels. En fait, quand on voit ces missions, on pourrait se dire que toutes les écoles et tous les collèges de France pourraient être classés en réseau d'éducation prioritaire.
Alors, vous savez, dans ce que vous avez indiqué là, vous avez cité un certain nombre de critères, effectivement, mais vous faites surtout référence aux savoirs fondamentaux que l'on doit acquérir à l'école, qui sont lire, écrire, compter et respecter autrui. Et ça, vous avez raison, c'est valable dans tous les établissements de France. Encore une fois, pour l'éducation prioritaire, il y a des particularités qui sont, je vous l'ai dit, liées à la sociologie, aux critères sociaux, aux critères économiques, aux critères géographiques, et puis parfois, parce que c'est pas le cas tout le temps, à des faiblesses un peu plus chez certains élèves, et c'est ce qui fait que nous dotons ces établissements de moyens supplémentaires, que nous renforçons les équipes pour garantir à ces élèves la meilleure réussite possible.
C'est là toute la difficulté de votre portefeuille, puisque les problématiques sont transversales. C'est un petit peu à l'image de Joël Giraud, qui est secrétaire d'État à la ruralité. La problématique est aussi transversale. Pour vous, les difficultés sont d'ordre économique, sont d'ordre aussi sociétal ?
Oui, c'est un portefeuille qui est transversal, et puis c'est un portefeuille, enfin, il est transversal. Il me sollicite beaucoup pour travailler vers plus de justice sociale, plus d'égalité des chances. Et effectivement, quand on parle d'égalité des chances, on embrasse un portefeuille qui est particulièrement vaste et large. Il m'amène aussi à travailler beaucoup en interministériel. Quand on parle de cité éducative, eh bien, il faut travailler avec la ville. Quand on parle de ruralité, par exemple, comme la petite école que je vais aller voir tout à l'heure, eh bien, moi, je pense aussi à travailler avec un de mes collègues, Clément Beaune, qui est en charge des affaires européennes, parce que je me dis que, par exemple, sur ces territoires où nos jeunes sont particulièrement enclavés, où il y a une forte autocensure, où il y a pas un manque d'ambition chez eux, mais en tout cas une problématique de mobilité forte, eh bien, il faut leur ouvrir des horizons. Et moi, je pense que, typiquement, sur ces territoires, il faut implanter davantage de programmes Erasmus. Vous voyez, par exemple, donc, c'est effectivement très vaste et ça m'amène à travailler avec l'ensemble de mes collègues.
Les réseaux d'éducation prioritaire ont remplacé les ZEP, zones d'éducation prioritaire. Il y avait eu un constat à l'époque d'un niveau qui s'était dégradé. 55% des élèves de 3e avaient le niveau en 2007. Il n'était plus que 42% en 2012. Aujourd'hui, est-ce qu'on a assez de recul sur le taux de réussite des REP ?
Alors, vous parlez du taux de réussite au sens large, ou bien est-ce que vous faites référence là, notamment aux études qui sont sorties en mathématiques? En tout cas, si c'est pour les mathématiques...
Mathématiques et français.
Alors, déjà, je vais vous répondre pour les mathématiques. Effectivement, il y a une évaluation qui s'appelle CEDRE, qui se fait sur 5 ans et qui a sorti ses résultats en 2019, où, en effet, on avait constaté un infléchissement des résultats des élèves en mathématiques. On n'a pas attendu 2019, même 2020 d'ailleurs, pour réagir, puisque dès 2018, on a lancé un plan qui est le plan mathématique. On a également lancé le plan français, où alors là, on est sur une approche dans la pédagogie qui est différenciée, où par exemple, sur les mathématiques, on invite les professeurs à aller davantage dans la manipulation, où il y a des mesures qui ont été prises pour mieux former les professeurs. Donc, on a déjà cranté un certain nombre de dispositifs pour améliorer le niveau des élèves, améliorer aussi, par exemple, encore sur les maths, la culture scientifique, en tout cas mathématique, de nos professeurs pour mieux les accompagner. Et puis, bien sûr, on a mis en place de nombreux dispositifs. Les CPCE1 dédoublés tels que je vais aller les voir ce matin, les devoirs faits, les stages de réussite, les cordées de la réussite, enfin je pourrais les détailler, d'ailleurs je le ferai dans la journée, on a mis en place, enfin c'est quelque chose qui est connu, dont on a bien connaissance, mais nous n'avons pas attendu pour agir, et depuis 2018-2019 déjà un certain nombre de mesures ont été prises en ce sens.
Oui, alors vous le disiez, vous parliez des classes dédoublées, il y a eu des résultats en la matière.
Sur les classes dédoublées, c'est positif, c'est extrêmement positif, et pour les enfants, pour les élèves d'abord, et également pour les enseignants. Pour les élèves, c'est une chance que de pouvoir travailler dans des petites classes de 12 élèves en général, et pour les professeurs, c'est également une façon d'aborder la classe, d'aborder ses pratiques, qui est différente, avec plus de temps à consacrer individuellement à chaque élève, parce que c'est tout l'intérêt de ces classes dédoublées, c'est de pouvoir se concentrer sur les élèves et de les aider individuellement dans leur parcours à progresser. Donc le résultat est positif, les CP et les CE1 sont dédoublés, et nous continuons pour la rentrée 2021, nous allons également dédoubler les classes de grande section de maternelle.
Alors c'était annoncé dès cette rentrée 2020.
C'était annoncé dès cette rentrée 2020 pour que ça se mette en place progressivement, avec un objectif à la rentrée 2021 que toutes les grandes sections de maternelle soient dédoublées.
Et alors, il y a un autre objectif qui avait été fixé par le président, c'est que toutes les autres classes soient progressivement limitées à des effectifs à 24 élèves, hein, que ce soit en grande section.
Oui, alors...
Mais ça a un coût, voire même un surcoût.
Alors ça se fera progressivement déjà, ça c'est pas pour maintenant, on se donne 2 ans pour y arriver. D'ici la rentrée 2022, l'objectif effectivement, c'est qu'il n'y ait plus que 24 élèves dans les classes, parce qu'encore une fois, une classe trop chargée, avec trop d'élèves, ça peut être difficile pour les élèves de se retrouver, d'oser prendre la parole, d'oser aller vers le professeur pour demander de l'aide. Et c'est aussi beaucoup plus complexe pour les professeurs de s'occuper individuellement des élèves. Donc, on va y aller tranquillement pour 2022. L'ensemble des classes, autant que possible, devrait être à 24 élèves.
Ça veut dire que, je posais la question, est-ce qu'il y aura un coût, voire un surcoût? Parce que ça demande aussi de recruter plus d'enseignants.
Alors le recrutement, on a déjà pour le premier degré cette année recruté 1866 professeurs supplémentaires. Et puis votre question, elle est pertinente, elle me permet aussi d'ouvrir le Grenelle des professeurs qui arrive là, que nous allons mettre en place, qui s'ouvre le 15 octobre prochain, à l'occasion duquel nous allons parler effectivement de revalorisation salariale de nos professeurs, de recrutement, de politique de ressources humaines, de formation, d'accompagnement de carrière. Mais bien sûr, pour qu'il y ait 24 élèves en classe, il faudra qu'il y ait plus de professeurs. Et nous avons déjà commencé à le faire dès cette année, avec encore une fois, pour le premier degré, 1866 professeurs devant élèves supplémentaires.
Ça tombe bien, vous parliez de rémunération des professeurs. Par rapport au réseau d'éducation prioritaire, il y a eu une revalorisation avec une première part correspondant à 1 000 euros net par an, une autre part de 1 000 euros net par an en 2019, soit une augmentation de 2 000 euros net par an. Est-ce que c'est suffisant pour qu'il n'y ait pas que des profs débutants dans les REP et les REP+?
Alors sur la rémunération, je me permets de compléter, puisqu'il y a également une troisième tranche, il y avait trois tranches. La troisième tranche là sera versée à l'issue du Grenelle, donc courant 2021. Voilà pour le premier élément de réponse. Ensuite, ça n'est pas une généralité. Ce que vous venez de me dire là, ça n'est pas une généralité. J'ai visité, par exemple, toute la journée d'hier des établissements dans le Vaucluse, où systématiquement, j'ai rencontré des équipes avec des chefs d'établissement et des professeurs qui étaient en place depuis plus de 10 ans. Et d'ailleurs, c'est très intéressant et c'est même important d'avoir en place des équipes qui soient stabilisées, qui se connaissent, qui savent travailler ensemble pour mieux accompagner nos enfants. Alors oui, il y a de jeunes profs en éducation prioritaire, il y a des profs qui arrivent, des professeurs même qui prennent goût et qui restent, et puis d'autres qui ne font que passer parce que c'est difficile, mais en tout cas c'est formateur.
Décrochage scolaire, un mot Madame la Ministre, on en parle beaucoup en ce moment parce que le confinement aura certainement eu des impacts. La France doit répondre à un objectif européen, c'est faire passer en 2020 le taux d'abandon scolaire sous la barre des 10%. C'est réussi, en tout cas ça a été réussi en 2019 par la France puisque le taux d'abandon scolaire était de 8,2%. En 2020, Est-ce que le confinement a rebattu les cartes?
Alors merci pour ces chiffres, de les annoncer comme tels, parce que c'est juste, hein, quand on a effectivement en France fait des efforts, on a progressé et nous sommes un petit peu en dessous, comme vous l'avez dit, de l'objectif. Alors le confinement a eu un impact, c'est évident. Néanmoins, nous sommes en train de constater que nous avons eu des inquiétudes, mais nous sommes en train de nous rassurer. Progressivement, en tout cas, je ne peux pas l'affirmer, mais ça va dans le bon sens. Alors, post-confinement, pour aller chercher les élèves dans les communes et avec les communes, on avait travaillé, on avait mis en place les dispositifs 2S2C pour faire revenir les enfants en classe. Ça ne s'était pas produit exactement comme nous l'espérions. Il y a peu d'enfants qui étaient revenus après le confinement. En revanche, pendant les vacances apprenantes, avec les colos apprenantes, avec l'école ouverte, l'école buissonnière, le stage de réussite, on a vu revenir les élèves et ils sont quasiment tous revenus en classe déjà à la rentrée. La France a fait mieux que nos voisins européens. Pour ce qui concerne le décrochage, dès la rentrée, nous avons mis en place les évaluations, nous avons mis en place également les tests de positionnement, ce qui permet de voir où en sont les élèves. Nous répondons là pendant les vacances d'octobre avec à nouveau des stages de réussite. Nous répondons également avec le dispositif Devoir fait qui est doté. Dans le second degré, nous avons doté les professeurs d'1 500 000 heures supplémentaires, dont une partie pour Devoir fait, ce qui permet vraiment d'aller encore une fois travailler individuellement et au plus près avec nos élèves pour rattraper les difficultés et en tout cas permettre aux élèves décrocheurs de rester à l'école.
Le 13 septembre 2018, le président de la République a lancé la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Il a annoncé qu'aucun jeune de moins de 18 ans ne doit se retrouver sans solution et doit être scolarisé en formation ou en emploi. Mais alors, c'est-à-dire, par exemple, pour celui qui n'est plus scolarisé, comment vous faites? Est-ce que vous allez le chercher directement chez lui?
Alors, la stratégie de lutte contre la pauvreté, effectivement, elle est même beaucoup plus vaste que ça. Un jeune qui, alors déjà, ce qu'il faut quand même rappeler, ce qui est important, c'est ce qui a été posé par la loi pour une école de la confiance, l'école obligatoire à partir de 3 ans, et puis aussi cette obligation de formation sur les jeunes de 16 à 18 ans. Et là, nous travaillons pour récupérer, pour rattraper ces jeunes qui sont un peu en train de s'écarter de l'école, avec l'ensemble des partenaires qui sont présents sur un territoire. Et votre propos illustre parfaitement ce que nous avons mis en place, les cités éducatives. Les cités éducatives, ça n'est pas un dispositif supplémentaire, ça n'est pas une couche sur les autres qui vient s'adosser sur les autres. Le principe de la cité éducative, c'est un écosystème qui se met en place autour du jeune, sur l'ensemble de son parcours, depuis l'école jusqu'à l'insertion professionnelle. Et nous travaillons en ce sens avec tous les acteurs qui sont présents sur le territoire, justement, pour ne pas écarter le jeune de l'école et l'amener tranquillement vers l'insertion. Nous travaillons avec les collectivités, nous travaillons avec le tissu associatif, nous travaillons avec les partenaires sociaux, nous travaillons avec nos partenaires économiques, typiquement, pour pouvoir proposer un stage de troisième à un jeune qui aurait des difficultés à en trouver un. Nous avons mis en place, encore une fois, les cordées de la réussite. Nous les amenons à aller vers les internats d'excellence. Donc, l'éducation nationale n'est pas seule. De toute façon, l'école ne peut pas tout à elle seule. C'est un écosystème qui se bâtit, qui se construit autour du jeune. Et c'est précisément en ce sens que nous essayons, en tout cas, de rattraper ces jeunes dont vous parliez qui pourraient être en déshérence pour les ramener sur le chemin de leur établissement et de la réussite, encore une fois.
Merci beaucoup, Nathalie Avier-Limas, d'avoir été avec nous ce matin sur Alpe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État en charge de l'éducation prioritaire et que vous serez ce vendredi en visite dans les Hautes-Alpes à la Reine-Montéglin, plus précisément. Merci beaucoup.
Merci à vous.